à Limoges. Limoges a battu le Grand Real en demi-finale et vient de battre le Benetton Trévise. Et c'est Richard Lacoury, 16 ans de fidélité à Limoges, qui ce soir a récompensé à l'issue d'une carrière exemplaire.
Mai 1993, tout le monde se souvient du sacre de l'Olympique de Marseille, vainqueur de la Ligue des champions de football. Pourtant, quelques jours plus tôt, un club de basket allait marquer à jamais l'histoire du sport français en devenant le premier à remporter un titre de champion d'Europe tout sport confondu. Cette équipe, c'est le CSP Limoges.
Le cercle blanc est magique, c'est la plus belle salle de France.
Le CSP est le plus grand club d'Europe.
C'est l'une des plus belles histoires de l'histoire du basket français, même du sport tout court. C'est une histoire exceptionnelle.
Le CSP.
Toi, je suis pas à l'antenne, tu vois que c'est compliqué, il y a plein de trucs à faire. Rien n'est prêt, vos tranches sont pas montées, vous êtes où? Toi à gauche, là je te monte, je t'allume ton micro, toi à droite. C'est le bordel, c'est où la droite, bordel?
Il y a la démission, hein, sans déconner.
Tiens, tu vas passer là après, moi ça me fera des vacances. Bonsoir tout le monde, donc c'est un début d'émission chaotique comme à peu près tous les 15 jours quand c'est nous. Voilà. Allez, Adessine, qu'est-ce qui va pas encore? Ah, vous me faites chier. Ça va là, c'est pas trop fort, ça va bien? Ah, bande d'emmerdeurs, putain, c'est pas vrai ça. On gagne tous les matchs, il faut quand même trouver le moyen de nous faire chier. C'est pas possible. Bon, alors, on en est où là? C'est le bordel hein, ce soir. Ça commence très très mal, hein, cette émission et cette année. Oui, donc ben, ça, vous l'avez reconnu, c'est le cercle, c'est l'émission par et pour les supporters du Limoges CSP, comme tous les 15 jours maintenant. Avec moi ce soir, il y a Grand Seb qui est en train de servir de l'apéro.
Bonsoir.
Ça va? Je t'entends pas beaucoup. Attends, faut que je te monte un petit peu peut-être.
Allô, bonsoir.
Redis bonsoir, ouais.
Bonsoir.
C'est ton casque qui merde aussi. Et il y a Patrick aussi qui est là.
Bonsoir et meilleurs voeux à toutes les supportrices du CSP.
Les supporters.
Et à Céline, non?
Et à toute la famille.
Et à toutes les dirigeantes, ouais, ouais, les dirigeants, bien sûr.
Qui font un excellent travail, que l'on salue tous les 15 jours. Donc,
Mais putain, je vous entends pas du tout, comment ça se fait?
Qu'on peut pas être pris à défaut, en tout cas, hein, je pense. Hein.
Ah, c'est les merdiers, moi j'entends quasiment rien, hein, c'est pas grave, je vais faire semblant de vous comprendre.
Bah, tu fais comme tous les 15 jours, hein, tu nous écoutes pas.
Bon, est-ce que j'ai pas fait de conneries? C'est bien, ça me paraît bizarre. Bon, bref, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Oui, donc le CSP qui n'en finit plus de gagner, qui enchaîne les victoires, c'est incroyable. C'est,
on va être champion.
C'est la magie de Noël. Eh ben, je sais pas si on sera champion, mais en tout cas, c'est un rythme de champion qu'on a. On est à quoi là? 5 ou 6 victoires sur les 7 derniers matchs, un truc comme ça?
Oui, j'allais dire 3 de suite, mais oui.
Ouais, ouais, c'est bon, pourvu que ça dure, quoi. Hein, incroyable.
Ouais, qui en doutait? Je veux dire.
Pas mal de monde, je pense, quand même.
Oui, bon, alors,
la saison est encore longue, nous ne voyons pas trop beau.
On reviendra aussi sur les circonstances favorables qui ont joué pour nous, peut-être, aussi.
Oui, effectivement, ouais. on pourra le dire match par match, effectivement, ce qui nous a permis, en tout cas, faciliter la tâche dans certains matchs. Ouais.
Tout à fait, mais ça, j'ai envie de dire, sur une saison, ça s'équilibre. Nous, on a eu une pléthore de blessés aussi en début de saison. Ouais. Ça, ce sont les aléas, ma foi, et c'est perte et profit, c'est que le CSP a profité d'adversaires diminués. Avant de passer sur les matchs, on a quelques petites choses à dire. La première, c'est que Duarte n'est pas là, alors qu'il était censé être là.
Il a dit qu'il passerait, il n'a pas dit qu'il serait là au démarrage.
Qui a encore confiance en lui, honnêtement.
Voilà, une petite pique gratuite pour Duarte, ça se trouve qu'il est en route, qui va arriver d'une minute à l'autre et m'en mettre plein la gueule.
J'espère qu'il a au moins un accident pour être en retard.
Voilà.
Vous allez le mettre de mauvais poil.
Non, les vraies infos surtout, c'est que souvenez-vous, il y a 15 jours, on se félicitait que l'infirmerie était enfin vide et qu'on n'avait plus de blessés. Et ben, 2 jours plus tard, Nico Lang se refaisait la cheville pour la 3e fois en quelques semaines.
Je peux me la faire en me disant que il y a 15 jours, j'avais dit ça aurait été bien de le ménager et tout ça, Nico Lang, pour pas qu'il se blesse, etc. Et donc, y compris dans la semaine d'entraînement.
Les entraînements, ils ont été aménagés, a priori, pour Nicolas.
Bah, pas assez, puisqu'il s'est re-blessé à l'entraînement.
Ah, mais ça, c'est pas parce que tu peux très bien retomber sur un pied, ça n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire.
J'avais raison, et puis c'est tout.
Je pense que tu avais raison.
Moi, je pense pas qu'on puisse se priver de Nicolas Lang comme ça.
Mais j'ai pas bien compris, moi, l'action de match où il se fait mal, parce que j'avais l'impression qu'il s'était pris un coup dans le visage au départ. Et je sais pas si vous vous souvenez, il a allongé sur le sol pendant très longtemps, et c'est en rentrant dans le trafic... Et a priori, bon, la cheville a pris. Est-ce qu'il a marché sur un pied?
Sur un pied, ouais, je crois que c'est ça. Oui.
Mais pas sur une action non plus. Il n'a pas tenté un 360 degrés à 3 mètres
de haut.
On
parle de Nicolas Lang, je vous rappelle.
Il rentre dans la raquette, il tape quelqu'un, il finit au sol. Et, alors, on pouvait le ménager. Après, c'est un fait de jeu quand même qui... Alors, peut-être que le corps est fatigué aussi. Hein. Il y a un coup de pas de bol, quoi.
Ouais. Après, moi, je pense quand même qu'il y a un staff médical au club et que s'il n'était pas apte à jouer, il n'aurait pas fait jouer, quoi. Qu'ils aient des semaines d'entraînement aménagées dans ces cas-là, certainement. Mmh. Mais si le joueur est apte à jouer, il joue. S'il n'est pas apte à jouer, il ne joue pas, quoi. Je pense que ça s'arrête là. Mmh. Et si Nicolas Lang était apte à jouer, je ne vois pas toi, se passer de ton meilleur joueur pour un match, même si c'est que contre Fosse, entre guillemets. Tu vois.
Est-ce que c'est notre meilleur joueur? C'est ce qu'a dit Massimo l'autre jour, mais...
Oui, enfin, c'est un de nos leaders, en tout cas.
On va pas jouer sur le capitaine, déjà.
Ouais, ça fait quand même un an et demi qu'il est assez irréprochable et régulier dans des performances assez
incroyables. Je vous taquine, hein, il est incroyable.
Et on voit bien qu'il nous manque quand il n'est pas là, quand même. Donc oui, voilà, Nico Lang, absence estimée 4 semaines, donc ça veut dire qu'il ne sera certainement pas là dimanche pour le match contre Paris. Retour espéré contre Pau, voire même peut-être contre Strasbourg, qui sait, le 15, on ne sait pas.
On ne sait pas gagner, à mon avis. Hein.
Ouais, on verra.
Ils vont peut-être être prudents ce coup-ci.
Ouais, vous avez vu dans la petite vidéo après la victoire à Villeurbanne, là dans le vestiaire, où Hugo Nerdy lui fait « Tu peux dégager 2 mois si tu veux ». Et Nicolas Lang, il répond « 2 semaines
». Ouais, ça fait partie des vidéos qui donnaient le sourire.
Oui.
Parce qu'on n'a pas souvent vu l'équipe avec une cohésion dans le vestiaire, tout le monde rigole et il se passe un truc, quoi.
Et le coach au milieu. Et
ouais, le coach au milieu des joueurs, ouais.
Et non, c'était... bon, on l'a souligné sur le Facebook là, en disant « Allez la voir celle-là, parce que celle-là, elle fait du bien, effectivement ». Et bien effectivement elle fait du bien. Bon, la victoire aussi hein, contre c'est après Monaco ça, oui.
Après Villeurbanne.
Ouais, ça fait du bien de voir un bel état d'esprit, une belle entente entre les joueurs, etc. Oui, non, c'est cool.
Tout à fait, une belle cohésion d'équipe. Tout à fait. Donc voilà, la blessure de Lang, on espère le revoir bientôt, évidemment, le plus tôt possible. La principale information quand même de ces dernières semaines, c'est un énième départ qui s'annonce au CSP. C'est le populaire qui annonce le départ de Courtois de Palmer à la fin de la saison.
Qui l'a confirmé après.
Qui l'a confirmé lui-même sur France Bleu, pardon. Ouais, donc après les départs d'Ostrowski, de Bolotny, de Dakoury, ceux annoncés de Fargeau et de Martinez, c'est maintenant le secteur sportif qui est touché avec un départ annoncé de Crawford Palmer en fin de saison. Bon, c'est toujours le bordel dans ce club, hein. L'instabilité est structurelle, même quand on a l'impression que ça va bien, il se passe quand même des choses en coulisses.
Alors ça, c'est pas compréhensible du tout. Parce que autant tu te dis, y a des fois, ça marche pas, l'équipe est bancale, les machins, tout ça. Bon, là, on a eu des craintes un peu au début de saison. On voit qu'effectivement, en leur laissant le temps de s'installer, de mettre en place le jeu du coach, etc., on commence à voir des choses intéressantes et on se dit, on a dit plusieurs fois que effectivement il avait été réactif, que voilà, qu'il faisait le taf, donc en gros, il n'y a pas de raison de s'en plaindre de chez nous. Alors mis à part que peut-être qu'on aurait pu avoir un vrai meneur et puis un gros 5 au lieu de 3. Bon, ok, peu importe. Avec des scies, on peut faire plein de trucs, mais on n'a pas de raison de se plaindre de lui. À l'intérieur du truc. Alors, est-ce que lui, après, a des choses qui ne lui plaisent pas et c'est pour ça qu'il se barre? Alors, on le saura
précisons
jamais.
Qu'il est poussé vers la sortie par Céline Forté, principalement pour des choix qui ne sont pas convaincants, notamment sur l'axe 1-5. Voilà.
Bah, a priori, il était à deux doigts de se faire virer il y a 3 semaines. Il a tenu quelques jours de plus grâce aux victoires, mais il était au bord de la rupture.
J'ai pas vu ça, moi.
Si, c'était marqué dans les articles.
C'est marrant, je crois.
Ah, mais j'ai pas lu.
Céline Forté donc reprocherait à Pierre Fargeau et à Crawford Palmer d'en faire trop à leur tête, voilà ce qui était marqué noir sur blanc dans l'article.
De toute façon, tout le monde part, donc soit il y a un gros problème en interne directionnel ou de fric, soit il y a une volonté de Céline de raser gratis et de repartir avec une nouvelle équipe, et c'est dire qu'il y a une volonté.
C'est ça. Est-ce que tous ces changements, ça va dans le sens d'un développement du club, ou alors est-ce que c'est juste un caprice de la patronne qui est pas contente et qui veut virer tout le monde? Je sais pas, mais
c'est de famille, ça, non?
On verra. En tout cas, bon, Crawford Palmer, un bilan mitigé quand même. Moi, j'ai rien contre lui, hein, mais il y a eu quand même des grosses plantades.
Alors, autant les années précédentes, je suis d'accord avec toi, autant cette année, il n'y a pas trop de gros pain. Enfin, il n'y a pas à reprendre. Encore une fois, non, moi, j'aurais aimé un vrai meneur et un gros 5 à la place de 2.
Ouais, mais c'est, a priori, c'est ce qui lui est reproché par Céline Forte, c'est la gestion de l'axe 1-5, où on se retrouve avec plein de meneurs et.
Plein d'arrière et plein d'arrière.
Plein d'arrière, pardon, putain, j'arrive pas à parler, ça m'agace. Plein d'arrière et pas de meneur. Et à l'intérieur, on a 4 pivots ou 3 pivots et demi, si on compte Pinkins, qui n'est pas vraiment un pivot, moyen, voire faible, et pas de vrai bon. Pivot dominant. Quoi.
Et peut-être que Céline Forte se retrouve dans la même position qu'on se trouvait depuis un petit moment en début de saison. On ne comprend pas comment, avec de l'argent, on arrive à prendre que des joueurs de deuxième division avec des, comme vous dites, des choix.
C'est les vraies questions qu'on se posait au départ. Après, sur le terrain, tu vois des choses.
On voit des choses, mais est-ce que les choses, elles se passent parce qu'on a un magicien sur le coach qui arrive à faire des petits miracles?
Vous avez entendu ou pas l'interview de Denis Verninzi là, sur Bein à la fin du match de Villeurbanne?
Ouais, mais j'étais en train de sabrer le champagne, donc j'ai pas.
Quand il explique qu'il y a des choix particuliers, on a décidé de jouer avec trois arrières.
Ouais, et donc il dit justement, bah ouais, effectivement, faut que le temps que ça se mette en place, effectivement, c'est un truc bizarre de jouer avec trois arrières au lieu d'un meneur. Mais voilà,
c'est assumé, ouais.
Donc ça a l'air de pas poser problème aux joueurs, donc ça pose problème à la directrice, bah, ok. Alors, j'avais pas vu hein, qu'il était menacé d'être viré au bout de 3 jours. Ça. Bon,
ouais, c'est Clavel Marot, ouais, qu'il a été okay, pas loin de se faire licencier dans les semaines. Depuis le début de saison, en tout cas, il est passé pas loin du coup près.
Parce ouais. Que si vraiment il a fait des économies en se disant s'il y a besoin d'ajuster et on garde un peu de sous, on garde un peu de poire, une petite poire pour la soif. S'il y a besoin de sortir d'un mec qui sort de, je sais pas moi, d'Australie ou de Chine ou je sais pas quoi, pour renforcer au play-off, on garde un peu de sous et puis on voit comment ça se passe là avec ces mecs-là qui font confiance, que le coach connaît à première vue la plupart, parce que tous ceux qui viennent d'Italie, ils devaient les connaître. Enfin, ça se discute, quoi. Enfin, j'en sais rien. Bon, après, l'emmerdant, c'est on repart sur quoi ? Les joueurs qu'on a là, qui ont été amenés par Palmer, est-ce qu'ils vont rester ou pas ? Le coach qui est là, qui a été amené par Palmer, est-ce qu'ils vont rester ou pas ? Il y a quand même quelques satisfactions. Il y a des trucs qui ne me plaisent pas aussi, ok. Mais c'est comment va se faire la transition entre les deux ? Est-ce qu'on va le recruter avant la fin de saison ? Est-ce que...
Ah ouais, obligatoirement.
Eh ben, j'espère. Non mais attends, comme d'hab, on va attendre août pour se mettre en la recherche d'un remplaçant.
Le problème, c'est que le recrutement, il se fait en janvier-février, ouais, pour les GFL, donc ça veut dire que c'est le futur directeur sportif, il faut qu'il commence déjà à travailler dessus.
Bien sûr. Donc c'est à partir de quand que la doublure est là, qu'on va commencer à le payer, est-ce qu'on va... Enfin, c'est bizarre, quoi.
Enfin. Ouais, ça peut pas. Maintenant que la situation est sortie au grand jour, là, ça peut pas rester comme ça bien longtemps. Et je pense qu'on va avoir des nouvelles sans tarder. Et je pense que Crawford Palmer est quelqu'un d'honnête et intelligent qui bossera.
Ça ne pourra pas être pire que Bourguin, de toute façon.
Oui, ça, effectivement, ouais. À ce niveau-là, niveau honnêteté, je pense qu'effectivement, il n'y a pas photo. Ouais, après, c'est ça, la question, qui va le remplacer, quoi.
Ouais, et puis pourquoi tout le monde part, quoi.
Ben ouais, ça,
parce que moi, c'est pas le départ de Palmer qui me fait peur, c'est le départ de tout le monde.
Ouais, c'est
Palmer, ni pour ni contre, bien au contraire. Il a fait des erreurs, il a fait des trucs bien.
D'accord.
Il a un budget moyen, on est dans le milieu de tableau. Il n'a pas fait de merveilles, il n'a pas fait d'énormes merdes, bon.
Ah, Youlbe, c'est quand même une belle énorme merde.
Oui, et puis derrière, montage. Il va te trouver un joueur qui est pas mal. Bon, c'est pas le directeur sportif de l'année, quoi.
Non.
On peut trouver forcément mieux.
Il y a eu des plantages et des bons coups. Mais encore heureux qu'il y a eu des bons coups avec l'argent qu'on a.
Il y a de l'argent, oui. Donc.
Enfin, des 10 directeurs sportifs qu'on a laissés partir, enfin, en tout cas, qui sont les Frédéric Sarr, qui est parti, qui est maintenant directeur sportif à Bourg.
Alors lui, je crois qu'il voulait pas rester, surtout. Ouais.
Bah, il voulait pas rester parce que lui, ce qu'il voulait, c'était être directeur sportif. Et que quand il est allé à Bourg, il a négocié. Ok, je fais une année coach là-bas. Par contre, derrière, je suis directeur sportif. Ce qui a été fait. Et ça lui a pas été proposé chez nous.
Il pouvait pas le faire avec Forte à l'époque.
Ouais. Ah mais oui, mais...
Et c'est bien dommage qu'il n'ait pas accepté la proposition.
Mais c'est dommage, parce que le seul Limougeot qui est dans le coin et qui est capable, on ne peut pas l'avoir.
Après, moi, c'est vrai que Palmer, il avait un contexte pas facile, j'ai envie de dire. Il arrivait en tant que quasi novice. Il avait qu'une saison d'expérience à Chalon-sur-Saône dans ce rôle-là. Et une mauvaise saison en plus. Il arrive ici, il se tape l'héritage des Dalton qu'on a découvert un peu plus ou moins sur le tas. Plus le Covid derrière, il n'a pas eu la partie facile. Et c'est vrai que malgré ça, on peut lui reconnaître des choses. Une belle réactivité, comme vous l'avez dit. D'avoir trouvé des joueurs qu'on n'était pas censé espérer. Tu vois, des Caboclo, des Lampé, on était quand même bien contents de pouvoir choper des joueurs comme ça. Il a eu des bonnes pioches comme Massimberg cette année. Voilà, il y a eu. Bon,
alors après Pickens, c'est beaucoup moins bien, mais.
Je sais pas. Moi, je suis assez partagé. Je sais pas si. J'attends de voir ce qu'il y a après, en fait. Je sais pas si c'est. J'allais dire une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est pas ça, mais je. Voilà, j'attends de voir si c'est vraiment un caprice de la patronne qui est pas contente, qui est tu t'en vas, t'es plus mon copain, ou alors si ça va. Tous ces changements vont vraiment dans le sens d'un développement du club, d'un changement de cycle, tu vois, d'un truc où on avance, quoi.
Ouais, ils en parlent de restructuration depuis un moment, mais bon.
Parce que c'est
un moment,
c'était quand même le discours de Pierre Fargeau. Souvenez-vous, quand on a parlé du départ de Pierre Fargeau, il avait dit aux antennes de France Bleu Limousin, je crois que c'était le soir du match contre Gravelines, où il y avait toute une émission spéciale Beaublanc machin, il était invité, il disait que son départ était, en fait, c'était quelque chose qui était prévu, nanana, le CSP passe dans une nouvelle ère, un changement de cycle et tout ça machin. Et moi, j'ai fait mon travail, en tout cas, j'ai bien commencé, quelqu'un va arriver, c'est un nouveau cycle machin. Et presque tout, non, c'est en bonne entente, quoi. Et l'article du Populaire, c'est pas vraiment cette sauce-là, quoi. C'est vraiment, ils sont poussés vers la sortie par Céline Forté, qui estime qu'ils en font trop à leur tête.
Mais, de toute façon, c'est peut-être aussi à mettre au crédit des mecs de pas foutre la merde là où il n'y a pas besoin d'en mettre. C'est peut-être des bons gars qui disent ouais, bon, on va pas foutre la merde dans le club. Déjà, le club est déjà suffisamment dans la merde comme ça. On va pas ruiner le peu qui tient debout, c'est-à-dire l'espoir des supporters, quoi.
C'est vrai qu'ils n'ont pas le potentiel de relou à vouloir foutre le bordel, en tout cas. Ouais, j'ai pas l'impression.
Moi, je le vois comme ça. Hein. Mmh. Ils partent, ils sont bien gentils en disant on fout pas la merde, quoi.
Ouais. Ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas retrouvé au prud'homme.
Alors après, la réponse de Fargeau à France Bleu, ça sentait quand même le discours politiquement correct.
Mais bien sûr.
Il veut pas faire de vagues, mais je suis là pour une mission. Si elle lui propose de rester avec un rôle plus important, le mec il adore le club, il dit oui tout de suite, je pense.
Bah, les PDG, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Le président, qu'est-ce que tu veux
Il est directeur général. Alors.
Directeur général, c'est difficile d'être au-dessus d'un truc intéressant, tu as de la gestion.
Alors après, quel est son poids là-dedans ? Est-ce qu'elle lui laissait suffisamment de poids ? Ou peut-être qu'elle trouve qu'il prenait trop de place là-dedans, enfin. Là, c'est des suppositions, mais...
Oui, puis on ne le saura jamais, mais... oui,
est-ce qu'on peut envisager que Céline Fortier, qui est quand même assez loin, et à la fois géographiquement, à la fois en termes de communication, à la fois en termes d'un peu tout ce qu'on veut, est-ce qu'on peut imaginer un rapprochement qu'elle veuille se séparer de Fargeau, un tel, c'est pour reprendre la main un peu plus, peut-être, sur le club, et plus diriger, et moins délégué, peut-être ?
Moins délégué, ou mettre d'autres personnes, parce que... Il y a déjà donc une des filles qui est arrivée, qui a pris une place importante.
Qui est, je crois, assistante administrative, juridique et financière, je crois que c'est l'intitulé de son poste.
Mais après,
mais ça ressemble à la constitution d'un clan, ouais.
Bah, comme avait fait Forté à la reprise, hein, où il y avait le beau-père, où il y avait elle aussi dedans. Il y avait un peu tout le monde.
Alors oui, c'est sûr que le CSP a un fonctionnement clanique depuis maintenant très longtemps, et c'est pas avec les changements de direction que ça a changé.
C'est un mot que je connaissais pas.
Clanique, un dérivé de clan.
Tu
transformes un adjectif clanique. Je sais pas si ça existe. Hein, je sais pas si c'est valable au Scrabble. Oui, d'accord.
Mais la différence, c'est que Fred, quand il arrive, lui, il adore le club, il adore le basket, il s'y intéresse, il a tous les matchs et il se bouffe les ongles de la première à la dernière minute. Elle a l'air un peu plus détachée quand même avec le côté sportif, même si ça l'intéresse sûrement, mais il n'y a pas l'amour du club et du basket comme Fred pouvait l'avoir. Donc,
En tout cas, il est moins démonstratif. Et du fait qu'elle n'est pas sur Limoges et qu'on la voit rarement, on ne peut pas, effectivement...
C'est déjà le fait de ne pas être ici.
Ouais, bah après, elle a une vie professionnelle. C'est aussi compréhensible qu'elle...
Mais présidente d'un club, c'est pas un métier ?
Ah, pas nécessairement. Je ne crois pas que tous les présidents soient...
Je ne suis pas sûr qu'elle soit salariée.
Ouais, je ne suis pas sûr non plus.
Enfin, mais Fargeau, lui, il a mis son activité professionnelle côté, entre parenthèses pour s'occuper que de ça, quoi. Donc, elle l'a pas fait.
Bon. Je crois que si je dis pas de bêtises, elle a un business dans l'immobilier sur Rouen ou
à l'époque, c'est ça. En Normandie. Ouais.
Ok. Eh ben, on verra. Moi, c'est ça. Moi, ça me tarde un petit peu de voir qui vont être tous les remplaçants de tous les gens qui vont partir, parce que plus personne du directoire du début, le directeur sportif qui s'en va. Ouais, ça serait bien qu'on sache où le club va, tout simplement. Parce que là,
un petit coup de bonnette, allez hop, reviens par là.
Ouais, ça c'est un serpent de mer depuis le temps qu'on en parle. Mais oui, non, ça serait bien que, parce que là, on ne sait pas du tout où le club va. Et comme vous l'avez dit, le recrutement, ça se passe dès maintenant. En tout cas pour les joueurs français, pour les prises de contact et tout ça.
Surtout qu'il faut aller vite parce que normalement, le doublement de la masse salariale, c'est sous Martinez. Ouais. Donc il nous reste plus que quelques mois avant que... Et il nous avait quand même sorti ça.
Mais quand on repense à toutes les promesses qu'on avait eues à la prise de pouvoir de la nouvelle direction et quand on fait le bilan aujourd'hui, c'est sûr qu'on en est loin. Hein, mais bon.
Oui.
Voilà. Réjouissons-nous, ne faisons pas la tête. On est dans une bonne spirale sportive.
Bonne dynamique.
Une bonne dynamique, voilà, exactement. Pourvu que ça dure, c'est tout. On a d'autres choses à dire sur ce départ de Palmer, non?
Malheureusement, il faudra attendre, comme tu l'as dit, de savoir qui arrive, qui pour remplace, savoir si c'était une bonne ou mauvaise décision. Ouais,
voilà, exactement. Tout à fait, je crois que tu as bien résumé.
Mais j'ai résumé ce que
tu
as dit.
Hein. Tu es synthétique parfaitement, à ton habitude.
C'est la nouvelle année, on est tous gentils. Oh là là.
Est-ce qu'on prend 30 secondes pour te faire du mal du All-Star Game? Parce que c'était quand même sacrément de la merde.
C'était quand?
C'était le 29 décembre.
J'ai pas regardé.
Non, ça m'intéresse pas.
Moi, je me suis fait mal un petit peu au début.
Ouais, mais tu fais partie des riches campings, toi.
Ouais.
Moi, j'ai une vie sociale et des amis, j'ai pas eu le temps, désolé.
Non, ben voilà, ben, je vous le dis, c'était de la merde.
Ouais.
C'est toujours de la merde, hein, la soi-disant grande fête du basket français. Mais alors, franchement, là, c'était, le concours des meneurs était pitoyable.
Avec trois slaloms et passer la balle dans un cerceau.
Ouais, tu fais un slalom, tu l'envoies la balle dans une cible qui est quand même énorme. C'est genre le carré qui sépare nos deux studios là, tu vois. Fallait envoyer un truc.
Ouais, donc 3 mètres carrés.
Et ils ont loupé pas mal le truc. Hein. Et après, faut mettre des shoots. Ensuite, tu refais le slalom. Il faut remettre un panier à 3 points. Voilà. Enfin,
pour ouais, c'est un tricky-bi quoi.
Ouais, mais c'était pas super.
C'est dur, tricky-bi.
C'est trop dur, mais c'est super.
Le match était vraiment pourri, sauf à la fin, comme d'habitude, où voilà, il y a un petit peu
d'orgueil. Ah, j'ai juste vu le panier d'égalisation de Dokobo, où il joue que pour lui, il dribble tout le monde, il shoot de façon totalement improbable, il met un tir incroyable, mais c'est complètement naze.
Le reste était d'un niveau vraiment affligeant. Le seul truc qui était vraiment énorme, j'ai trouvé, moi, c'est le concours à 3 points avec le manceau Bamford qui a été incroyable, qui fait 24 sur 30 les deux fois, premier passage et deuxième passage.
Contre qui?
Il était contre... je sais plus. Voilà, je saurais pas te le dire. Mais pas Nico Lang.
Nico, il était prévu à ça ou au jeu, lui?
Il était prévu à ça, aux deux. Match, ah ouais, concours à 3 points. Et d'ailleurs, c'est Bamford.
3 points?
Ouais, et d'ailleurs, c'est Bamford qui le remplaçait à 3 points, tu vois. Et putain, mais j'arrive plus à me souvenir qui sont les autres, tu vois. Mais c'est comme tellement ça m'a. J'étais omnibulé par Bamford qui a fait un truc incroyable.
Hugo aurait pu le faire. Enfin, pas à 3 points, mais au moins faire les passes. Ou parce que maintenant, il ne joue plus, mais qui fait des passes.
Ou récupérer les.
Ah, Bamford. Sur les derniers matchs, vous êtes sévère.
Ouais. Enfin, voilà.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est tout ce que j'avais à dire sur mon petit coup de gueule sur le All-Star Game, voilà, qui est un truc que j'aime pas, mais que je me fais mal à regarder quasiment tous les ans. On passe sur les... non, c'est vrai,
t'as
c'est
pas
nul.
Une saloperie à dire là-dessus, toi?
Sur l'All-Star Game?
Ouais. Non.
C'est un peu la ligue qui s'auto-branle sur sa médiocrité, non? C'est pas un peu ça
Oui.
Non, là, vous êtes dur. Ils arrivent à remplir une salle pour montrer du basket avec 15 000 personnes. Et... moi, je trouve ça à chier. Hein. Ça n'a aucun intérêt sportif. Si ça peut faire plaisir à des gamins.
Mais ça qui est bizarre. Il se dit souvent, à chaque fois, que ça attire des gens qui ne vont pas d'habitude dans les salles de basket. Et c'est vrai que les clubs parisiens, à part Nanterre qui a un petit public, que ce soit Levallois ou Paris Basket, la salle est. Il n'y a pas grand public. Et là, ils ont réussi à rentrer 15 000 personnes, effectivement, à Bercy, pour ce truc-là, avec soi-disant la plupart des gens qui ne viennent pas en général voir le basket français.
Bon, parce qu'ils viennent voir le concours de dunk, ils viennent voir les trucs un peu spectaculaires.
C'est un show, ils viennent
match.
Voir.
Ouais, ils
achètent
show.
Du popcorn. Après, c'est ce qu'on disait peut-être l'autre jour aussi sur la formation au CSP. C'est un ensemble. Plus il y a de basket qui passe, plus je pense que c'est bien. Bon, ouais. Nous, on ne va pas regarder, ça ne nous intéresse pas, mais peut-être que dans un ensemble, ça, plus ça, plus ça. Bon.
Ça peut peut-être amener des gamins vers le basket, oui, effectivement.
Peut-être que Bein, ils sont contents. C'est Bein qui diffusait?
Ouais, ou... c'est Bein qui diffusait. Ouais.
Peut-être qu'ils sont contents, ils font un peu d'audience, plus que pour un...
truc de golf.
Un truc de golf ou un Bourg-en-Bresse contre Dijon. Bon.
C'est un beau match, ça. Hein. Ouais.
Dernier pour Ambroise Dijon.
Je suis pas sûr que ça attire les foules. Mais...
ok, voilà, donc on est quand même tous d'accord sur le fait que le Star Game c'est un peu nul. Voilà, même si c'est la grande fête du basket français. On passe sur les matchs, messieurs.
Ah, enfin, putain.
Pardon, ça a duré trop longtemps à ton goût?
Non, non, c'est
une... il fallait en parler de Palmer.
Non, mais j'essaie de râler toutes les deux minutes.
Non, mais c'est bien, c'est parfait. Donc le match qui nous intéresse en premier, c'est la réception de Fauss. On avait le plaisir de revoir deux anciens Limougeaux avec Édouard Choquet et Jean-Michel Mipoca. C'était un match que le CSP se devait absolument de gagner au regard des classements respectifs. Ne surtout pas gâcher l'exploit à Monaco, parce qu'une défaite aurait fait quand même une tâche. Mmh. Et attention à cette équipe de Foss, donc il est resté sur la même ossature que la saison dernière, et qui est une équipe souvent accrocheuse. Moi, j'essaye d'oublier ce match depuis que je l'ai vu, j'ai vraiment détesté, je crois que c'est un des pires matchs de l'année. Une première mi-temps, somme toute, assez moyenne, où le CSP défend quand même pas trop mal en limitant Foss à 31 points, mais que c'était poussif et brouillon des deux côtés, en attaque principalement.
Au bout d'une minute trente, je pensais que le match était plié, moi. Ouais, on met 7-0, on les intercepte deux fois sur les remontées de balles. Tu sais qu'ils n'ont aucun joueur derrière. Je dis, oh là là, on va leur mettre le bouillon.
C'est peut-être trop parti justement en champagne, basket champagne à n'importe quoi.
Le public est prêt à s'enflammer, la salle est pleine. Je dis, ça va être la soirée de l'année. On avait mis 50 points la dernière fois contre Gravelines. Impeccable, ils vont morfler.
Non, ça a duré 1 minute 30.
Et après.
Et après, ouais. Mais après, Foss, ils ont bien défendu, ils nous ont quand même bien fait chier. C'est une équipe vraiment accrocheuse. Mais la deuxième mi-temps, mon Dieu, elle était horrible. Une purge sans rythme, sans inspiration. Alors jusqu'à ces dernières minutes de panique totale contre une pauvre presse. Le CSP s'en sort quand même dans la douleur et clairement sans briller en gagnant 75 à 67 contre cette équipe de Foss qui, ma foi, a vendu charmant sa peau, amputée de trois joueurs. Quelle était ?
Cinq.
Non, il manquait trois joueurs, les Ricains. Il manquait le Diggs, le meneur, il manquait Peacock, qui n'était pas apte à jouer, et il manquait Caner Medley, je crois.
Ouais, mais j'ai Doucouré et Parks aussi.
Ah oui, c'est vrai. Et Doucouré aussi.
Ah ouais ?
Il y a au moins quatre joueurs qui manquent.
Okay, bah ouais, j'ai fait l'exercice d'aller chercher la compo sous LNB. Alors je sais pas s'il y a les pigistes aussi ou pas, j'ai pas fait le tri. Hein. Mais j'ai pris la liste des joueurs par équipe et j'ai regardé ceux qui étaient sur la feuille de match. Et moi, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5 en moins.
Ouais, bref, il en manquait quoi.
Pas mal. De toute façon, ils ont joué à 7 avec le 7ème qui joue 7 minutes et des joueurs qui étaient carrément pas au niveau quoi.
Bah, pas au niveau.
Kevin Toumba, là, je sais pas si vous vous souvenez, le 22. C'était une blague, quoi. Dès qu'il avait la balle, il faisait un marché, une faute offensive. C'était l'Harlem Globetrotter inversé, quoi. Après, voilà, Edouard Choquet, il a tout donné dès le départ, c'est incroyable.
Lui, à chaque fois,
il est bien joué.
Et après, bon, il était rincé, il joue 40 minutes. Hein. À la fin, tous ses shoots à 3 points, il a plus de jus, il en met plus un, et tant mieux. Mais
oui, il nous a emmerdé à un moment. Oh. Il a pris des beaux shoots, il nous a bien emmerdé.
Et puis le jeune, Alan Doc aussi.
Ouais.
Lui, il est bien.
Lui, c'est le phénomène. Ouais, un peu,
oh là, 13 rebonds, super. Ça me rappelle Duarte dans ses jeunes années. Quoi.
N'importe quoi. Il avait qu'à être là, tant pis, il en prend pour son grade.
c'est un 100 grade, lui. Hein.
Ouais, bon, le CSP s'en sort, le truc avec comme 10 sur 21 au lancer franc, 47% au lancer.
Le match horrible.
Ah ouais, non, c'était vraiment dégueulasse.
Il n'y a rien qui va, même Massimbourg, il fait des trucs un peu nazes.
Un match qu'on perd à Léval, d'ailleurs.
Oui, on le perd.
Malgré un bon ratio, 20 passes décisives, 9 balles perdues, franchement, c'était énorme. Moi, je comprends pas l'inconstance en fait, qu'on a d'un match à l'autre. Parce que si on prend les derniers matchs, on fait un super match contre Gravelines, on fait un match de merde à Orléans, on fait un super match à Monaco, on fait un match de merde contre Foss, on fait un super match à l'Asvel. Moi, ça me sidère un peu, surtout que cette équipe me donnait l'impression, grâce à son, son agressivité, son assise défensive, d'avoir une équipe dont on peut avoir des garanties. Quoi, tu vois, on a quand même d'énormes trous d'air.
Ce match-là, et puis sur le match d'après... j'ai trouvé que la défense était moins bien. Il y a eu pas mal d'alternance de défense en zone, en indif, tout ça. Il y a eu des boîtes de temps en temps. Par contre, ce qu'on a pu voir souvent aussi, c'est des gros trous en plein milieu avec des pics tout cons et puis que ça rentrait dedans comme dans du beurre.
Mais sur ce match-là, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. Je crois qu'il y a des joueurs qui n'y étaient pas du tout, quoi.
Oui.
On était veille de réveillon, il y était déjà quoi. Combien de barres de dinde je prends ? Est-ce que je prends la cuisse ? Est-ce que je prends du blanc ?
Je sais pas. Je sais pas, mais clairement quand, enfin, avant, j'ai re-regardé là, le résumé du match là avant de venir de Foss.
Oh le mec il bosse.
Ah, le mec il se fait mal.
Oui, je bosse. Bah, je me fais chier. J'ai les stats imprimées, j'ai les écarts, j'ai tout.
Ça, faudrait que tu nous expliques comment t'arrives à imprimer sur toute une page à chaque fois. Moi, je galère. Donc. Mais bon, ça reste entre nous. Et je continue.
Amateur. Oui.
Ça pète hein, quand même. Hein.
Oui, bah ouais, merde, je me fais chier à le faire. Donc, du coup, oui, je disais, il y a eu beaucoup d'actions où c'est direct, c'est au milieu, c'est entraînard, ça rentre dedans facile. Alors que tu te dis, autant des fois, ils sont rigoureux et tu n'as pas d'espace et tu n'as pas de circulation de balles vers l'intérieur et on est emmerdé, on les amène au bout des 24. Autant là sur ce match-là, surtout pendant la deuxième période.
Ouais, la deuxième mi-temps surtout. Ouais.
La deuxième mi-temps, ça rentrait dedans comme ça voulait. Et une passe directe, plein axe, au gros dessous, ça rentre comme ça veut. Alors, est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce que c'est pareil? Parce que je sais pas, moi. J'en sais rien. Peut-être. Et ça a été pareil sur l'Asvel aussi à un moment.
Peut-être un excès de confiance, un relâchement. Tu fais une grosse perf à Monaco, tu reçois une petite équipe, entre guillemets, à domicile, tu te dis ça va le faire sans
diminuer.
Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que là, les joueurs, ils ont pas assuré. C'était vraiment un match dégueulasse. Et il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match-là, à part la victoire. Hein,
ce qui m'a fait mal, c'est qu'en défense, on a fait un pressing très haut pendant longtemps et on s'est fait percer sur le pressing à chaque fois. Ils ont pu marquer des paniers en transition très facile, avec deux passes, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'était incompréhensible, alors que Massimo, qui est plutôt bon normalement pour s'adapter en défense, il a mis énormément de temps à trouver la solution à ça. Et on s'est pris un nombre de paniers trop simple, beaucoup trop souvent.
Ça a été moins le cas après le match à l'Asvel il a
réussi à corriger le tir.
Ouais.
Après, pour répondre à vos questions sur l'inconstance, à mon avis, hein, c'est que ce qui fait un grand joueur, c'est la régularité. Et nos joueurs, on n'a pas des grands joueurs. On a des joueurs qui peuvent être bons par moment, mais ils sont, en termes de régularité, ils sont beaucoup moins réguliers que des joueurs de top team. Et ce qui fait que de temps en temps, on va avoir des trous d'air comme on a eu contre Cholet ou contre Orléans. Il faudra l'accepter qu'on l'ait encore cette année. Ce n'est pas forcément qu'une régularité sur l'envie, parce que je pense que les joueurs en envie, ils se battent quand même souvent, mais de temps en temps, il y a le cerveau qui ne suit pas, l'adresse qui n'est pas là. Et...
Moi, sur ce match-là, ce qui me marque, quand, justement, je rebondis sur ce que tu disais, là, sur l'envie et l'énergie que tu mets, on perd la bataille du rebond. On est à moins 9 par rapport à eux. Il y a eux, ils en prennent 37, on a 28. On perd la bataille du rebond, alors qu'on...
Ouais, on a perdu la bataille de l'envie et de l'agressivité, déjà.
Clair, clair.
Il y avait une équipe qui était morte de faim. C'est souvent ça, quand les équipes sont diminuées, il y a un supplément d'âme qui apparaît. Et nous, on était franchement apathiques de l'autre côté. On était vraiment dedans, quoi.
Après, heureusement que nos requins nous font des matchs, nous sortent des matchs. Les trois, Massingberg à 11 points... Pommier, bon, il paraît qu'un lui, et Harper. Heureusement que eux nous sortent des grosses stats, et parce que sinon ça aurait pu faire mal. Hein.
Ça aurait pu être une sacrée désillusion, ouais, effectivement.
Et par contre, de l'autre côté, côté fausse, leurs 5 majeurs, tous ils sont à plus de 10 points.
Ouais, ils ont joué énormément aussi, vu qu'il n'y avait pas de rotation.
Oui, d'accord, mais ils ont tous apporté la pierre, ils ont tous marqué à tous les postes, ça jouait, ça partageait la balle, et c'était joli.
Ouais, mais c'est une équipe qui se connaît parce qu'ils n'ont pas changé grand-chose à leur effectif. C'est une équipe qui est hyper accrocheuse. Et à part, ils ont pris une branle à Monaco là, récemment, mais sinon, à part ça, c'est rare qu'ils prennent des tôles. Fausse, ce n'est pas une équipe cadeau. Enfin, ce n'est pas une équipe forcément facile à jouer. Et ma foi, dans l'adversité, avec plein d'absents, ils l'ont bien montré chez nous, où effectivement, ils nous ont sacrément emmerdés. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ça.
Chapeau, oui. Moi, ce qui m'a étonné, je ne sais pas si vous avez entendu l'interview d'après-match, c'est Massimo qui a coupé court tout de suite, il a dit eh, c'est bon là, je m'en fous, victoire. Ouais. C'est pas grave, ça arrive, on joue pas bien, mais les autres, je m'en fous s'ils ont des absents, on a gagné, point barre.
C'est vrai suivant. Que c'est aussi bien pour une équipe de gagner quand t'es pas bonne, quoi. Tu vois, gagner des matchs de merde, c'est...
Ouais, je m'attendais à ce qu'ils râlent, quoi. Parce que, on est sortis du match, on était tous un peu frustrés de l'envie, du machin, du truc, on joue face à 5 joueurs et demi, et c'est bon, on prend la victoire, et ça arrivera cette année que des fois on gagne pas des matchs alors qu'on aurait dû...
Moi, je pense qu'il a forcément râlé, parce que quand tu vois la qualité, le match qu'on a proposé, et les dernières minutes, moi je suis désolé, mais je ne suis pas coach de basket, mais quand tu vois ce qu'on a proposé sur la presse de Fosse, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire sur une presse, quoi. Arrêter la balle, aller s'empêtrer contre la ligne, ne pas mettre de mecs au milieu du terrain, tu es face à une presse, c'est quand même la base depuis que tu joues au basket quand tu es gamin, tu mets des mecs au milieu du terrain, tu n'envoies pas tous les mecs de l'autre côté en laissant le mec
se démarrer tout seul, monter la balle tout seul.
C'est stupide, quoi. Moi, je m'arrachais les cheveux, je dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. Je comprends pas, quoi. Qu'on puisse faire des conneries pareilles. Enfin bon, on a gagné, on s'est fait peur, mais on s'en sort. Le CSP s'impose 75-67 après un match dégueulasse, mais bon, il y en a, et puis c'est une victoire, il faut la prendre.
Ouais, petit truc que j'ai vu parce que j'étais bien placé, et quelque chose qui m'a bien fait plaisir, et quand on parlait de relations joueur-entraîneur, tout ça, qu'on a pu voir donc dans la vidéo qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a marqué. C'est un moment où, je ne sais plus pourquoi, Massimo commençait à péter un câble, il a commencé à balancer sa tablette par terre.
Il a pété deux, trois fois un câble, c'était marrant.
Oui. c'est Invernizzi qui allait le chercher, qui allait le prendre la main, lui taper sur la main, et calme, 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 on va y arriver, calme, c'est bon. Et j'ai trouvé ça super cool. Du coup, et puis effectivement, il a respiré. Et 3 secondes après, il est venu, il lui a mis une claque sur l'épaule en disant « Ouais, t'as raison, c'est bon, allez, on y va. Et j'ai trouvé du coup cet échange super cool. Tu vois qu'il commence à y avoir du respect. Et c'est une question que j'avais posée à moi à Massenburg en début de saison quand j'avais eu la chance de pouvoir lui causer.
Comme il se la pète.
Oui, monsieur, je suis
un. Il perd pas une occasion. Hein.
Tout à fait, je suis un privilégié.
Il parle pas anglais, hein, donc on veut savoir.
Un petit peu. Motherfucker, tout ça, je sais dire.
Ah, ok. Ouais. Je sais pas si ça lui a plu à Massenburg. <sais pas. rire>
Je lui avais posé la question et c'est pas bizarre d'avoir un coach qui pendant 3 secondes va te hurler dessus et puis l'action d'après va te faire un câlin quoi, parce que c'est ce qu'on voit. Il me dit non, c'est bizarre la première fois, mais après tu t'y fais, puis c'est un bon coach. Et cette relation là que j'ai pu voir avec Hugo et Massimo m'a touché aussi quoi, du coup. Ouais. que le voilà, c'était tout.
C'est vrai que Massimo, il a l'air d'avoir un côté paternaliste. À la fois, il peut hurler sur ses joueurs et les défoncer, mais il peut aussi être hyper protecteur et encourageant, quoi, et rassurant. Peut-être.
Et puis même, pour les temps morts qu'on a vus pour le match d'après, qu'on parlera après, il braille 3 secondes sur un mec, et puis pouf, hop, là, ouais. La tension, elle revient, il se recentre, et c'est bon, on est parti sur la technique, et on y va, on a expliqué autre chose.
Le match de fausse, quand même, il y a eu 2-3 trucs. À un moment, il prend une chaise, là, il est à 2 doigts de la balancer. Après, il a 2 doigts, je crois que c'est Endoy qui a 2 doigts de prendre un coup de comment ça, ouais, ça. Surtout qu'il fait les schémas, là, la tablette, ouais. J'ai vraiment cru qu'il allait lui en foutre une, moi. Hein. Quand il a levé la tablette comme ça, j'ai vraiment cru qu'il allait lui en foutre sur la gueule.
Moi, je suis allé au match avec quelqu'un qui n'avait jamais vu de match de basket.
Il reviendra sans doute jamais.
Il a trouvé que l'ambiance était sympa, que voilà, il a plutôt aimé le match, et sans connaître rien au basket, hein, il m'a dit par contre, le coach de Limoges, je trouve qu'il crie un peu trop, il en fait trop, je trouve. Il m'a fait marrer, ah bon. Je lui ai dit, non, si peu.
Un petit italien, moi.
Oui, mais quelqu'un qui ne connaît pas, qui voit ça à l'extérieur, il regarde avec des yeux pas possibles. Alors qu'en fait, c'est un disjoncteur, et finalement, il hurle tellement, il est tellement dans l'énergie absolue, dans tous les sens, que les joueurs sont calmes. Et les décharges, c'est comme tu dis, c'est Hugo qui vient le calmer, alors que c'était lui qui était là à râler, à faire la tête l'an dernier. Non, là, c'est lui qui essaie d'apaiser les choses.
Il vient une petite tape sur la main, c'est bon, coach, allez, viens.
Ça me rappelle un peu 2000 où
Ivanovic
était tellement fou que finalement, ça avait fédéré les joueurs et tous les joueurs faisaient bloc et c'est lui qui était le relou et eux qui étaient là juste pour accomplir le truc.
C'est clair que, en tout cas, les joueurs ont l'air de s'être habitués, d'avoir accepté ça, et même l'air d'adhérer, même carrément, puisque vu les résultats qu'on a.
Alors, il faut des victoires pour adhérer, et là, elles arrivent, donc c'est tout bonus. Hein. Tant mieux, bravo à lui, hein,
tant mieux
que ça continue.
Et des victoires, donc il y en a énormément ces temps-ci, il y en a beaucoup, et pas des moindres, puisqu'après avoir... non, il n'y en a jamais trop. Après avoir été gagné à Monaco, le CSP a récidivé sur le parquet de Villeurbanne, l'autre ogre de la division. Une belle affiche du basket français, hein, en plus, pour la première sur les antennes de Beansport, qui a récupéré... la diffusion du basket français.
J'ai bien aimé le petit tacle de Monclar au président de la...
Mimram, je ne sais pas quel rôle il a à la Ligue. Mais...
Il est délégué général ou un truc comme ça.
Tous les tacles à la Ligue, ils sont bons à prendre. Hein.
Ouais. Enfin là, ils ne se gênent pas. Hein. Là, tu sens qu'il y a un compte à régler et que l'autre, il n'est pas en position de force. Bin vient de revenir et maintenant tu t'écrases, tu as été mauvais.
Le tacle qu'il lui a mis... Il nous a snobé, maintenant il est bien content de nous trouver parce que il a fait de la merde et que son truc n'était pas diffusé et maintenant il est bien content de trouver Bing.
Ah ouais, c'était sympa.
Oui.
Surtout venant de Montclar. Quoi.
Oui.
Beaucoup de monde apprécie en tout cas. Donc une belle affiche sur les antennes de Beansport. En plus, un coup à jouer avec le CSP avec l'Asvel archi diminué. Où on retrouve l'ancien Limougeau William Howard. Ça fait toujours quelque chose de voir William Howard d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un joueur qui est resté que 2 ans chez nous, tu vois, mais je l'aimais bien. Et à chaque fois que je vois à Villeurbanne, ça me fait toujours un peu chier. Mais je suis content pour lui parce qu'au début à Villeurbanne c'est très compliqué. Et puis maintenant il a clairement fait sa place et c'est devenu un joueur quasi majeur dans une armada assez impressionnante. Donc moi je suis content pour William Howard quand même. C'était la petite parenthèse, William Howard. Non, pourquoi ?
Tu peux pas être content qu'un joueur aille à l'Asvel. Enfin,
ah non, oui, ça, non, d'accord, mais bon.
Bah après, il y a le petit échec NBA où il a joué 2 fois à Houston et puis est revenu. Et
avec un magnifique 0 sur 4. Hein.
Ouais. Ouais. Bah, Angélique, il faisait des cartons par contre.
Ouais, mais bon, qui fait pas de cartons, Angélique. Mais bon, après.
Il y en a.
Après.
Massenburg était pas ouf. Hein. Je crois qu'il faisait 14-15
ouais,
points.
Ouais,
il
après, ça dépend de l'équipe où tu tournes, mais si tu veux marquer des points, Angélique, t'en marques, quoi. Je veux dire, ça dépend un peu de ta philosophie. Mais c'est vrai que moi.
Si on parle philosophie,
pour
tes compagnies.
Pour revenir sur les anciens joueurs, petite parenthèse de 30 secondes, là, autant j'étais, c'est méchant ce que je veux dire, mais j'étais presque content de voir Bungkolo se ramasser, se faire dégager à Moscou et en Espagne, à Séville ou je sais plus où. Autant je suis content pour William Howard de le voir réussir, tu vois. Je sais pas, c'est. Voilà, c'est tout. J'avais juste envie de dire ça.
Moi, j'aime bien quand nos joueurs réussissent à l'étranger.
Pas contre nous.
En France, contre nous, quand on va jouer, enfin quand on joue de Jerry, enfin on l'a pas joué là parce qu'il était blessé.
Ouais. Bah, lui, la saison galère, Jerry.
Ouais, bah, tant pis pour lui. Hein.
Bon, c'est dit. Bon, allez, on passe sur ce match au lieu de raconter des conneries. Un bon premier quart-temps du CSP, un très bon début de match avec un CSP bien en place des deux côtés du terrain et qui pose beaucoup de problèmes à Villeurbanne. De la défense, du rythme, de l'alternance. On met souvent le ballon dessous et ça marche très bien. 27-16 pour le CSP à la fin du premier quart-temps. Gros coup de gueule de notre ami Freddy Fautou. Et ça a porté ses fruits parce que l'ASVEL a tout de suite monté son intensité et s'est mis à défendre. Et là, ça a été beaucoup plus compliqué. On a eu beaucoup plus de mal à bouger le ballon. Et dans ces, souvent, comme souvent dans ces cas-là, et encore plus quand on n'a pas Nicolas Lang, ben on était en grande difficulté. Là, ça va aller remonter très très vite pour même passer devant à la mi-temps, 44-43, sur un énième panier au buzzer, je crois, si je dis pas de conneries, non, c'est pas ça.
Non, c'est nous qu'on loupe, on fait de la merde sur la dernière possession. De la mi-temps.
Deuxième mi-temps, moi j'ai adoré. Enfin, j'aime bien aimer ce match, là, je trouvais qu'il était super cool, mais la deuxième mi-temps était magnifique, à mano à mano. Super, 71-68 à la fin du troisième, et puis Limoges qui finit par s'imposer grâce à une traction arrière, Harper Massimberg en feu et un Goen Vernizzi totalement précieux et clutch avec 14 points et notamment cette panier à 3 points hyper lointain dans les derniers.
Il prend ses responsabilités, il n'hésite pas, il ne se cache pas, il le prend ce shoot et c'est ce qu'on attend de lui, il le met.
Et il fait gagner, et le CSP s'impose 85-83 après une dernière possession foirée par Villeurbanne.
Une seconde 5, ouais, alors c'est pareil sur Decisio un peu encore.
C'est bizarre hein, parce que sur la pénétration, pour moi, il y a faute. Ouais, mais après, on nous redonne. Endoy prend le rebond, il y a trois fautes sur lui, on le siffle pas, on siffle le marché. Marché pour, ouais.
Pas... Perd tes profits, voilà. Mais globalement, moi, j'ai pas envie de
toi.
Comment
Bisson quoi.
Ouais, mais moi je trouvais les arbitres plutôt bons sur ce match, tu vois.
Alors, peut-être ça, c'est parce qu'on gagne. Ça n'a pas sifflé beaucoup.
Peut-être si on avait perdu, je ne dirais pas la même chose.
Mais contre Monaco, ça n'avait pas sifflé beaucoup. C'était un peu physique, c'était joli à voir, tout ça, c'était très bien. Là, ça n'a pas sifflé beaucoup, ça laissait jouer. C'était beaucoup moins physique par contre, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gros chez eux.
Bah, il n'y en avait qu'un.
Bah, il en avait
par contre, il nous a fait la misère.
Ah oui, putain, quelle longue forêt celui-là. L'Osfa machin.
Ostetoski, je crois, il s'appelle. Celui-là. Mais beau joueur lui, hein. 18 points de moyenne en Eurocoupe l'année dernière.
Très honnêtement, je ne le connaissais pas
moi
bien.
Non plus. Il joue en Allemagne.
Comme il nous a fait la misère.
Ma première vue, c'est son premier bon match. Hein.
Bah, ouais.
Il est derrière Fall et derrière je ne sais pas trop qui en temps normal. Donc,
Bah, bravo à lui, hein, parce qu'il a été
clairement
impressionnant.
Il a saisi sa chance. Quoi. Voilà,
il a saisi sa chance. Mmh. Bah, moi, je reviens pareil sur ce que tu as dit. Hein. Le premier quart pour nous, deuxième quart pour eux. Et après, ça a été du combat tout le long. Avec des coup pour coup, avec des petites. Alors, vraiment des petites séries, mais il n'y a pas eu beaucoup de gros écarts. Après, c'était à coup de un stop par-ci, un stop par-là pour l'une, pour l'autre. Il n'y a pas eu de gros pets. C'était vraiment un beau match.
Oui, carrément. Donc.
Ludo qui met un 3 points pas possible.
Hyper important.
Attends.
Et puis, bon passage.
Super entrée de Ludo. Ouais.
Même pour Foss, hein, mon passage, on ne l'a pas dit, mais moi, je l'ai trouvé son passage pas trop mal.
Alors ça m'a moins marqué, mais effectivement l'entrée de Ludo à la Villeurbanne, elle est hyper importante, elle était hyper bon. D'ailleurs Massimo l'a souligné, il a dit qu'il a joué que 5 minutes, mais ça a été 5 minutes hyper importantes, il a apporté énormément.
Bah, à partir du moment où il est capable de mettre au moins un panier déjà, change.
Il a emmerdé leur
Strazel.
Merci.
Ouais, il met 5 points en 5 minutes. Hein, donc,
en 9 minutes.
Il l'a emmerdé, il a fait chier sur les montées de balles, et il a fait une récupération... il a fait deux interceptions.
Bah en plus, si les arbitres laissent jouer, Ludo, il peut être intéressant en défense. Parce que,
Ça siffle pas à peine, il le touche. Quoi.
Parce que c'est un arbitre classique qu'on a l'habitude de voir, Ludo, au bout de 3 minutes, 3 montées de balles, il sert à rien. Quoi. Et là, ouais, il peut être emmerdant. L'équipe a pas lâché. Villeurbanne arrive à repasser devant à la fin, on dit c'est compliqué, non, ils remettent un coup de collier. Ouais.
Comme à Monaco, quand Monaco revient à moins 3, on se dit merde, putain, fait chier, on va se faire niquer. Je suis très vulgaire là, sur cette phrase.
C'est horrible. Hein.
pardon. Mais effectivement, donc, au lieu de craquer, on a bien tenu. Et là, pareil, quand Villeurbanne repasse devant à la fin, on est solide. Quoi.
Alors, on est solide. Ça fait quand même un ou deux shoots en première intention de nos arrières qui, moi, m'ont fait hurler. Hein.
Ouais, mais c'est leur jeu.
Ouais, mais moi, ça me gonfle, ça.
On est content quand ils les mettent.
Oui, d'accord, mais combien de fois ça loupe ? Là, c'est rentré. Youpi ! Ah, moi, les shoots en première attention, quand t'es à moins 5, ça me gonfle. Surtout quand il reste encore 4 minutes de jeu, je dis putain, il y a autre chose à faire.
Alors, ça va être facile mon rôle, parce que je l'ai défoncé toutes les semaines, et là, d'un seul coup, je vais dire qu'il a bien joué. Mais Harper, pour le coup, contre Villeurbanne, t'as l'impression qu'il était dans le rythme quand même.
Oui.
il sentait le truc, il n'était pas à contre-courant de son jeu où il essaye de mettre le panier, ça rentre pas, il continue, continue.
Oui.
Là, il avait la main, il était en confiance.
Et puis, il y a eu de l'alternance. Il a pris des shoots de première intention qui m'ont gonflé, c'est rentré, tant mieux. Il a fait des peinés, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi.
J'espère que on est en train de voir le vrai Harper qui commence à prendre le truc.
Mais ça, c'est du boulot de deux.
Mais de toute façon, c'est un deux.
C'est du deux, ça.
Mais attends, comme tu le disais, Ivernizzi l'a dit, c'est faut qu'ils apprennent à jouer avec trois arrières.
Mais moi, tu mets Massenberg en 1 et lui en 2, ça marche ?
Même l'inverse marche aussi. Je crois que. Alors, vous faites une fixette sur Harper que je ne comprends que moyennement.
Enfin, je suis peut-être le seul. Hein,
Je crois que Massimo, on a plus que marre de ça, parce que vous avez vu dans le populaire,
oui, il marqué.
Démonte Harper est un putain de meneur, et quand il n'est pas sur le terrain, ça se voit.
C'est pas un putain de meneur, donc non.
Bah, je trouve pas que ce soit un meneur non plus. Mais par contre, je trouve qu'il fait franchement bien le taf. Une fois que. Je sais pas pourquoi, on n'a pas été chercher un Warren, un Jefferson, un Olson, comme d'autres ont fait. Bon, on a fait ce choix-là de prendre des arrières. Mais une fois que t'es là-dedans, c'est quand même nier l'évidence que Harper, il fait du super taf, quoi.
Enfin, pour moi, c'est son premier vraiment match. Hein. Je te jure. Hein.
14 points de moyenne, 3 rebonds, 4 et quelques passes de moyenne, 13 dévals en moyenne. J'ai regardé, tu parlais de stabilité tout à l'heure, quand on parlait d'inconstance, là, tu disais on a dans des joueurs qui sont inconstants. C'est faux, parce que tu prends les stats de Massenberg et de Harper, 14 matchs joués. Harper, il en a 11 à plus de 10 points, dont 7 à plus de 15 points. Et Massenberg, c'est carrément 12 matchs à plus de 10 points. T'imagines, les mecs, ils sont passés au travers rarement, quoi. Pour retrouver un mauvais match de Harper, il faut remonter à début novembre, je crois. Et pour retrouver un vrai mauvais match de Massenberg, il faut remonter à Bourg-en-Bresse, le deuxième match de la saison. Donc, moi, je trouve, au contraire, on a des arrières.
Je crois qu'Harper, il fait 3 matchs à 2 dévals. Hein.
Ouais, c'est sur 14. Voilà. Et combien de fois il met plus de 20 points ? Il met 7 fois plus de 15 points. Il est à 11 matchs sur 14 à plus de 10 points. Je sais pas. Et les mecs, qu'est-ce qu'il vous faut, quoi ? Ok, c'est pas un vrai meneur. 14 points de moyenne, 4 et quelques passes d'est de moyenne, 13 dévals en moyenne. On sort de Speedy Smith, les gars. Moi, je comprends pas votre fixette sur Harper, franchement. Je comprends qu'on soit déçu de pas avoir un meneur fort comme en plein d'équipes, un petit lutin là, qui est hyper chiant. Mais une fois qu'on a fait le deuil de ça, il faut reconnaître quand même que pour un mec qui a pas joué depuis un an et demi, Harper, il fait sacrément le taf, quoi. Il est hyper élégant à voir jouer, il sait faire plein de trucs. Il défend, putain. On a Massenberg et Harper qui défendent, et ça, c'est hyper important.
Oui.
Notre big three, c'est Harper, Massenberg, Lang. Hein. C'est eux qui tiennent la baraque. Hein. Pour moi, si un problème, il n'est pas à la main, il est à l'intérieur où on se retrouve avec un paquet de pivots moyens.
Et encore premier, il fait pas mal le taf. Et
c'est pas un cador, quoi.
C'est pas un cador, mais quand il est servi, il se démerde pas mal.
Après, je mets de côté Basile, parce que Basile, c'est un héritage de Bourguin. On peut pas faire autrement que de se le traîner avec un gros salaire. Mais tu as Basile, Pinkins et Spencer, qui sont trois pivots moyens, voire faibles. Avec les salaires de ces trois-là, à mon avis, tu peux
avoir un gros, oui.
Et
oui.
À mon avis, c'est là d'accord. Après, moi, je suis d'accord que j'aurais préféré avoir un Warren hein, que plein d'arrière. Hein. Mais moi, je trouve que Démonte Harper, pour un mec qui revient d'un an et demi sans jouer, quand on voit le joueur que c'était en pré-saison, notamment le match à Saint-Junien où il faisait pitié à voir et il était complètement à la ramasse, quand on voit ce que c'est devenu, et puis il fait quand même pas mal de cartons. Quoi.
Et je vais avoir du mal à dire qu'il est pas bon là, il vient de faire 25 et 22 sur le 2
des 3. Il le fait tout le temps, tous les matchs, il est bon, c'est ça que je comprends pas avec vous.
C'est mon ressenti.
Ouais, mais c'est ça.
Il a le droit d'avoir un avis différent de toi.
Je comprends pas. Non, mais d'accord. Mais ça,
moi, je trouve qu'il joue souvent à contre-jeu.
Pas, c'est que toutes les 15 jours, c'est pareil. C'est la même fixette sur le même joueur. Alors que ce joueur est bon.
Je viens de dire du bien. Hein.
Mais oui, mais bon.
Je viens de dire du bien aujourd'hui. Hein.
Mais non, t'as dit du bien pour en dire du mal au final, après.
Ça, c'est ma rhétorique. Excuse-moi.
Moi, je comprends pas votre fixette sur Harper. Je suis d'accord que c'est pas un meneur comme on l'entend, sans traditionnel et que c'est pas le. Mais à côté de ça, c'est nier l'évidence que Denier qui fait du super taf. Quoi.
Mon ressenti, c'est que c'était un bon joueur qui essayait de retrouver son niveau et il avait du mal à le faire. S'il arrive à retrouver son niveau et quitte à forcer, un bon joueur qui force, ça me dérange pas. Un joueur qui est pas au niveau et il mettait des points en shootant à 35% ou à 37%.
Ça remontait, il était à 30, maintenant il est remonté à 38, je crois.
Ce qui est pas bon.
Ce qui est pas très bon. Non,
c'est pas très bon, c'est pas bon.
Il y a encore quelques semaines, il était à 29%. Enfin, au début de saison,
Il jouait à. Tu sens qu'il a du niveau, il n'y a pas de souci.
À 3 points, je parle. Hein. Je parle pas en adresse générale, je parle à 3 points uniquement.
À 38, c'est pas mal à 3 points du coup.
Qu'il était, il était à 29 il y a genre 2 mois et maintenant il est passé. Mais bon. Non,
on peut pas dire. Juste
putain, ça remarque, je vous entends hyper fort d'un coup.
Juste pour.
putain.
C'est bien fait pour ta gueule. Juste pour revenir là-dessus, tu dis Harper et Massenberg, tout ça, ils font des stats et des scores et des cartons, tout ça. Ok, c'est deux arrières, ok. Le but d'un meneur, c'est de faire jouer les autres aussi. et tu dis on n'a pas de points dessous, on n'a pas de machin, on n'a pas d'alternance. Mais
on,
ouais.
On les met les ballons dessous plus que l'année dernière, moi je trouve.
Ah bah plus, oui, mais l'année dernière on en mettait zéro, sauf quand il y avait Caboclo et Lampe, mais sinon non. Il y a encore même quoi, ils étaient là, on en mettait zéro.
Moi, j'aime bien parce que Harper et Massenburg, ils marquent au moins la moitié de leurs points sur près du cercle en percutant. Capables de shooter, ils sont capables de percuter.
Oui, je suis d'accord, si c'est de la peinée, il y a du shoot, il y a de l'alternance de shoot extérieur, mi-distance et peinée.
Ils font tourner l'équipe parce que Harper, il a 4,5 passes de moyenne et Massenburg a 3,5, je crois. Donc
il y a pas ses passes, hein. James Harden, il était deux fois meilleur passeur de NBA, toi, donc ouais, OK, tu fais des passes mais tu monopolises la balle et il y a que toi et ça fait pas un jeu fluide. Je suis pas sûr que ce soit un mec qui fluidifie le jeu, Harper, mais s'il est capable de jouer en deux comme il fait,
il a la capacité à fixer et à ressortir sur Lang ou Invernizzi quand ils sont quand même.
C'est pas le mec qui me rassure balle en main.
Ah non, c'est là où on voit que c'est pas un meneur, c'est qu'au niveau dextérité balle en main,
quand le nombre de fois où il fait des remises en jeu ratées, c'est incroyable.
Parlons-en sur les deux derniers matchs.
La remise en jeu, c'est pas que la faute du mec qui fait la remise en jeu, c'est aussi la faute des mecs qui se démarquent pas.
Sur les deux derniers matchs, combien on a eu d'interceptions sur des remises en jeu ou sur des premières balles après un rebond?
Ah ouais, c'est pas que sur le nos péchés mignons. Ça.
Sur les deux derniers matchs, j'ai affaire, alors Cruzol, un paquet, mais il n'y a pas eu que lui. C'est hallucinant le nombre de balles qu'on a perdues, Fosse et Lasvel, sur la première balle après la récupération de la possession. Quoi. C'est fou.
J'ai pas l'impression qu'on ait tant des wagons que ça, mais il y en a eu quelques-unes, ouais, c'est sûr.
Ah bah moi, ça m'a choqué, Lasvel et Fosse. Lasvel, le match, j'ai vu hier soir en replay, donc je peux te dire.
Je suis d'accord pour dire que Harper et Massenburg ont des moments de moins bien, peuvent avoir des moments d'inconstance, mais n'empêche qu'on est obligé de remarquer et d'admettre qu'ils sont hyper importants et impactants. Quoi. Ah. Et que franchement, c'est eux plus Lang qui tiennent l'équipe. Hein.
Mais moi, je te dis pas que c'est des mauvais joueurs, je te dis que c'est des bons arrières. Je dis ça, c'est tout.
Ouais, d'accord. Ouais, on peut discuter du profil effectivement qui correspond pas forcément, mais enfin, je pense pas qu'on puisse remettre en cause les performances d'Harper puisque c'est lui dont il s'agissait, ni même de Massenburg, toi, ou de Lang. Je pense que vraiment, ils font le taf, quoi. Ouais, tu me montres l'heure. Effectivement, tu as raison, mais il est 52. On a encore quelques minutes pour parler de Paris. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match de Villeurbanne? Il y a des choses qui vous ont marqué? Moi, ce qui m'a saoulé, on en parlait tout à l'heure, c'est Ostatowski qui nous met la misère alors que c'est leur seul intérieur. On a mis super bien le ballon dessous au début du match, on l'a plus fait du tout après. Oui. Ils ont qu'un seul intérieur, tu le pilonnes, quoi, non? Je sais pas. Enfin, c'est.
Oui, mais et puis surtout, c'est qu'ils nous ont fait la même 15 fois. C'est un pick and pop ou un pick and roll en tête de raquette et ils nous l'ont fait 15 fois.
Ouais. Après, nous aussi, on leur a fait 15 fois les Harper et Massenburg qui les mettent dans. Ils ont été incapables de stopper nos
oui,
arrières.
Oui,
quoi.
Oui. Même ils ont fait la réflexion, Montclair, qu'ils passaient tout le temps sur la droite et que ça c'est peut-être pas compliqué de les stopper sur la droite parce qu'ils allaient tout le temps au même côté. Je suis d'accord. Mais surtout que quand on a fait de la zone, ça les a emmerdés. Bon, Okobo nous a foutu 2-3 petits shoots dessus, donc il y avait peut-être moyen de faire.
Mais Okobo, t'as un gros joueur, mais passe au travers quand même sur ce match un petit peu, je trouve.
Il a été assez moyen, je trouve.
Bien aidé.
Ouais. Oui, parce qu'au travers, ouais, je suis assez d'accord.
Et alors, la stat qu'il faut que je souligne, j'en ai dit au match de Fosse, 47% au lancé. Match contre Villeurbanne, 90% au lancé. Ouais, quand même. Ça change quand même la donne quand tu mets pas mal de lancers francs dans un match serré.
Mais on gagne ce match, mais on perd à l'éval.
On perd à l'éval.
Encore une fois.
Et on a un ratio passe décisive, balle perdue dégueulasse, qui est négatif. Mais on gagne quand même, finalement.
Face à 7 joueurs. C'est-à-dire que Villeurbanne a 7 joueurs, ils sont quand même. Enfin, je sais pas quoi ils ont 16 joueurs.
T'as vu la gueule des joueurs, des 7 joueurs?
Ah ouais, quand tu vois le matos qu'il leur reste,
c'est énorme.
Ils avaient quand même Jones, Lighty, Kaudi, Wembanyama, Fall, Antetokounmpo d'absent, et malgré tout, il leur reste quand même une équipe.
Et d'autres, hein, parce qu'ils ont un effectif de 16, donc il leur en manque.
Je les ai notés, ouais.
C'est quand même incroyable.
qu'ils arrivent à être compétitifs avec ça, c'est hallucinant. Enfin.
Encore une fois, tant mieux pour nous. Quand on les prenne à ce moment-là, ça fait une victoire de plus.
Parce que rien ne dit que dans 3 semaines ou un peu plus, on n'est pas 3-4 joueurs de blessés.
Évidemment, ça c'est la loterie un petit peu en ces périodes instables. Niveau statistique, Harper 25 points, 7 rebonds, 26 déval. Massenburg 20 points, 5 rebonds, 5 passes, 25 déval. Invernizzi enfin présent au scoring. Et mon Dieu que ça a été important, 14 points, 9 rebonds, un rebond du double-double.
3 sur 3.
21 déval. Voilà, ça a été les leaders. Après ça, certes, on a eu une traction Harper-Massenburg énorme à Villeurbanne et ils ont été incapables de les arrêter. Mais pour autant, ça serait réducteur de limiter cette victoire à ça. Il y a quand même une dimension collective à cette victoire, je trouve. On a parlé de la bonne entrée de Ludo. Il y a aussi la bonne entrée de Hendoy qui a fait il se jette par terre. Il prend
J'adore ce rebond offensif qu'il prend. Enfin, deux fois, il provoque un entre-deux. C'est l'envie qu'on a envie de voir. Alors, on finit le match avec Ruzol et Hendoy.
Moi, je l'ai trouvé. Alors, mis à part ces deux trucs-là, je l'ai trouvé un petit peu transparent. Hendoy. Et je parle pas de Blex.
J'avais oublié.
Mais je l'ai trouvé. Mis à part, c'est vraiment deux gros passages à l'énergie où il se jette par terre, où il fait des vrais rebonds importants. Je l'ai pas vu. Tu le vois pas dans les actions, dans les constructions. Tu le vois pas.
Sur ce match-là, il est quand même.
Mais la défense, c'est tout le monde.
Mais lui, vraiment, c'est un super défenseur. Quoi.
Pour moi, c'est un Jean-Fred Morency bis.
Un peu plus talentueux, peut-être, quand même.
Ouais, peut-être un peu plus, mais...
Morency qui n'a pas de club, d'ailleurs.
Mais c'est ce type de joueur qui est là, 7-8e rotation, et qui arrive pour mettre de l'énergie, et qui va pas forcément briller, parce que le match qu'il a fait, c'est contre Gravelines, où il fait un truc pas possible.
Ouais, il était bon.
Ça arrivera peu de fois dans l'année.
Oui, c'est parce qu'on attend de lui de marquer.
Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse une petite claquette à la dernière seconde une fois, qu'il fasse le bon bloc ou la.
Ouais. Après, sur l'aspect défensif, j'ai rien à dire là-dessus.
Offensivement, ça pêche un poil. Ouais.
Je pense qu'il nous a tous conquis, Hendoy, depuis son retour. Il y a deux joueurs qui ont eu le même trajectoire et qui sont blessés en pré-saison, Blex et Hendoy. Les deux sont revenus au même moment. Il y a quand même un qui est.
Il y en a un dont on attend plus que l'autre.
Ouais, c'est sûr. Mais il y en a un qui est hyper décevant et l'autre qui est. Enfin, moi, Hendoy, j'aime beaucoup. Quoi. Sans aller jusqu'à dire qu'il change la donne, mais quand même il est hyper important quoi. Défensivement il fait des super trucs au niveau des déplacements, enfin moi je le trouve très bon Hendoy.
Après moi j'ai bien aimé le jeu de passe, alors je critique assez souvent et là j'ai un petit truc positif quand même, le jeu de passe de Cruzol en peigné pour Spencer ou pour Pommier ou pour machin.
Alors ça ils se connaissent là-dessus, Cruzol il a progressé, c'est super ouais.
Et souvent, il fait une tentative soit fond de ligne, soit machin, et il arrive à trouver. Tu dis, il va essayer, il va faire un truc casse-croûte. Ben non, en fait, c'est qu'il a vu qu'il y avait le gros dessous. Pauvre petite balle par petite balle, petit rebond.
Petit aller-oup. Ouais.
Et petit aller-oup. Et ça, il a progressé là-dessus, et c'est intéressant.
Bah, il est en capacité de pénétrer, de faire la passe ou de shooter extérieur. Mmh. Ça devient un vrai joueur.
Exactement. Tout à fait, en progression, et Bolotny et les autres qui ont cru en lui ont eu raison d'y croire. Il nous reste 30 secondes, comme d'habitude, pour parler du prochain match. C'est dimanche, c'est samedi ou dimanche ? Non, c'est dimanche
19h.
Dimanche 19h, donc à Beaublanc contre Paris. Paris qui est dans le dur, ils sont 15e, je crois, malgré des bons joueurs, notamment des bons jeunes français, Bégarin, Barbic, Kamagaté, et puis Toupane, qu'ils ont recruté, je crois, j'ai cru voir.
Alors, je sais pas si le recrutement est officiel.
Ah bon ? Ok, en tout cas, ils sont dessus.
Ce matin, c'était pas encore officiel ?
Bah alors, moi, j'ai des collègues qui m'ont dit qu'à première vue, ils seraient peut-être qualifiés pour nous.
Oh.
Bon, ça fait un peu chier.
Ah ouais, mais bon, c'est comme ça.
On verra bien.
Et le tout avec toujours l'éternel Amarassi. Et puis quelques bons ricains. Voilà, attention à cette équipe de Paris, hein, qui est un futur gros club en devenir. Moi, j'avoue que je verrais d'un bon oeil qu'ils redescendent directement.
Ça serait bien.
Parce que d'ici 3-4 saisons, de toute façon, ils seront devenus inconcurrençables. Et c'est encore un club qui va nous passer devant. Enfin bon, bref, ça...
Non, mais ça, c'est que vous ne connaissez pas le projet de Céline. Enfin, je l'appelle Céline.
Peut-être, exactement. Madame Fortin. J'avais vu un petit reportage, vite fait, en 10 secondes, là, sur Paris, où ils attendent, en fait, là, pour l'instant, ils s'en foutent, ils attendent d'avoir leur salle en 2023 pour vraiment partir. Là, pour l'instant, ils font les fondations tranquillou. Et dès qu'ils auront leur nouvelle aréna en 2023, là, objectif Euroleague, plein pot, avec des moyens. Et bon, c'est pour ça que s'ils pouvaient redescendre directement en Pro B, que ça leur fasse prendre une année de retard, ma foi, pourquoi pas. Voilà, c'était la petite parenthèse, on va vous laisser. Je ne sais pas ce quelle émission il y a après. En tout cas, voilà, on souhaite une bonne soirée sur les ondes de Bob FM. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours avec, on l'espère, des nouvelles victoires. Il y a Paris, après il y a un déplacement à Strasbourg qui va être coton. Et puis ça sera enfin la réception de Pau avec une jauge limitée, malheureusement, on ne l'a pas dit. 2000 personnes jusqu'au 24 de janvier. Et malheureusement, le match est le 23 contre Pau.
Minimum.
Ils vont bien le déplacer pour une diffusion, un truc.
C'est déplacé déjà, c'était le 22 et c'est déplacé le 23. Dimanche 23. Voilà, que je retrouve les bons trucs pour lancer le bon générique, que je fasse pas de conneries. Salut.
Le cercle.
Ouais, salut.
Ciao, ciao.